Ce podcast vous est offert par H2O Gaïa.
H2O Gaïa est un nouveau système de purification de l'eau par hyperfiltration qui vous permet d'avoir au robinet une eau pure, reminéralisée et revitalisée qui vous transmet tous ses bienfaits.
Renseignez-vous au 06 52 52 83 87 et bénéficiez d'une offre promotionnelle avec le code OSMOSE10.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
Érosmose. Érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Bonjour, bonsoir, salut à tous, chers amis, chers petits fripons, vous êtes bien sûr Osmose Radio, à l'écoute de votre émission consacrée à l'érotisme et la sexualité, et Rosmose en compagnie de moi, Stéphane, ainsi que de celle qui m'aime en ces froides saisons, s'est réchauffée tous les cœurs, peut-être même tous les slips, Laurence.
Bonsoir Stéphane, bonsoir Loïc. Je suis en pullover parce que je veux bien vous réchauffer, mais quand même, ça caille un peu. Mais on va vous réchauffer.
Et puis un garçon qui n'a pas besoin qu'on le réchauffe, car il a non seulement une grosse écharpe, mais aussi du poil tout autour. C'est notre gentil régisseur, c'est Loïc, bien entendu. Et quant à vous, chers amis, eh bien c'est vrai que ce froid mois de novembre, froid, pluvieux, tristouné, n'invite pas forcément au folle, au fou déferlement de la libido. Hein, c'est même un mois à voir le libido en berne. Comme disait Pierre Desproges, c'est pas un temps à mettre un socialiste dehors. Mais bon, nous, dans cette émission, on va s'employer à vous réchauffer un petit peu tout ça et en même temps, en inversant un peu le rapport de force, puisque au début du mois de novembre, il a beaucoup été question de la mort, soit au moment des commémorations de la Grande Guerre, le 11 novembre, soit le moment d'Halloween et de la fête des morts, les 31 octobre et 2 novembre. Donc, dans les thèmes de cette émission, aujourd'hui, on a décidé de surfer sur tout ça, mais d'aborder évidemment tous ces thèmes sous le prisme qui nous intéresse dans cette émission, le prisme de l'érotisme et de l'art et de la culture, voire de, un petit peu de la société, bref, toutes choses dont on parle dans Érosmose. Et pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, un peu d'humour grivois, hein, une fois n'est pas coutume, vous me direz encore que, avec Georges Brassens qui nous raconte ses histoires coquines avec un fantôme.
C'était tremblant, c'était troublant, c'était vêtu d'un drap tout blanc, ça présentait tous les symptômes, tous les dehors de la vision, les faux airs de l'apparition, en un mot c'était un fantôme. À sa manière d'avancer, à sa façon de balancer, les hanches quelque peu convexes, je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau-sexe. Je suis un petit poussé perdu, me dit-elle d'une voix morfondue, un pauvre fantôme en déroute. Plus de traces des feux follets, plus de traces des osselets dont j'avais jalonné ma route. Des poètes sans inspiration auront pris quelle aberration, mes feux follets pour des étoiles. De pauvres chiens de commissaire auront croqué quelle misère, mes osselets bien garnis de moelleux. À l'heure où le coq chantera, j'aurai bonne mine avec mon drap plein de faux plis et de coutures. Et dans ce siècle profane, nous, les gens ne croient plus guère à nous, on va crier à l'imposture. Moi qu'un chat perdu fait pleurer, pensez si j'eus le cœur serré devant l'embarras du fantôme. Venez, dis-je, en prenant sa main, que je vous montre le chemin, que je vous reconduise à homme. L'histoire finirait ici, mais la brise, et je l'en remercie, troussa le drap de ma cavalière. Dame, il manquait quelques osselets, mais le reste, loin d'être laid, était d'une grâce singulière. Mon Cupidon, qui avait la flèche facile en ce temps, la vie mouche et le feu sur les tempes. je conviais sournoisement la belle à venir un moment voir mes icônes, mes estampes. Mon cher Luther, vous êtes fou. J'ai 2000 ans de plus que vous. Le temps, madame, que nous importe. Mettant le fantôme sous mon bras, bien enveloppé dans son drap, vers mes pénates, je l'emporte. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui. Et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.
Il n'y avait que Brassens pour nous raconter et nous composer une chanson avec une histoire de cul avec une fantôme. Hein. J'ai 10 000 ans de plus que vous, mais le temps, madame, que nous importe. J'adore cette
On aime beaucoup ici, on adore.
Voilà. Et donc Brassens, hein, qui nous introduisait un petit peu dans ce thème des créatures fantastiques, dont il a été beaucoup question au moment d'Halloween, bien entendu. Le 31 octobre, bon, c'est pas une fête qu'on fête beaucoup ici, c'est pas une célébration traditionnelle en France, et pourtant, il y a toujours moyen de se faire plaisir et en même temps d'y repenser, hein, que ce soit en bulant un petit peu sur internet ou en voyant les gens autour de nous. Il y a toujours dans les magazines, dans les vitrines, des costumes sexy de zombies, de vampires, de
c'est
créatures.
Hyper sexy. Le zombie surtout.
Ah, faudrait que tu m'emmènes dans les magasins où tu vas traîner, toi.
Ah, moi j'adore.
Ah, je serais sûr curieux de voir ça.
Et coming out.
On veut pas tout savoir. Laurence, garde ta part de mystère, sois
oui,
comme une
c'est
vampire.
Vrai, c'est vrai.
Voilà. Vous avez la Carmilla en littérature avec Sheridan Le Fanu. Ben nous, on a Osmose, on a Laurence. Et donc, dans tout ce bestiaire des créatures fantastiques qui est à l'honneur au moment de la fête des morts, au moment d'Halloween. D'ailleurs, tiens, j'ai appris un truc sur Halloween. C'était l'ancienne fête celte de Shamain. Je fais un petit aparté. Shamain chez les Celtes et en Irlande, tout ça. Et en fait, c'était une date, le 31 octobre, qui ne faisait pas partie du calendrier. Donc, le calendrier celte avait 364 jours, en fait. Parce que ce jour-là était entre le monde des vivants et le monde des morts. Du coup, ça permettait de faire un petit peu la porte entre les deux, et le jour ne faisait pas partie du calendrier à proprement parler. Donc, dans la sexualité, ben, on a les transgenres qui sont ni hommes ni femmes. Et dans le calendrier celtique, ben, on avait le jour de Shamain, qui a donné plus tard Halloween, qui était entre le monde des vivants et le monde des morts. Et par cette porte interdimensionnelle, j'ai envie de dire, passaient des créatures bizarres, comme celles dont on va un petit peu parler ce soir. Alors, l'éventail est large, on a les vampires, vous connaissez les harpies, les ghouls dans les cimetières, les lamis, les momies, tous les zombies bien entendu, plus récemment avec le cinéma. Et une créature qui nous intéresse plus particulièrement dans cette émission aujourd'hui, ce sera les succubes et leur pendant masculin, les incubes. Les incubes et les succubes, qui sont des créatures démoniaques dont l'origine est fort lointaine, qui remontent aux premiers âges de, peut-être pas de l'humanité, mais de la civilisation néanmoins, et dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Alors, les références artistiques, littéraires et dans notre culture occidentale contemporaine sont relativement indiscrètes, mais elles existent. Hein. Pour vous donner une idée visuelle de l'incube, en fait, et des succubes, on vous rapporte, bien entendu, à la peinture romantique du 19e siècle, parce que c'est sans doute ce courant artistique-là qui a le mieux illustré, que ce soit en littérature ou en peinture.
C'est vrai.
Ces créatures qui viennent du fantastique, à partir du moment où Goethe a écrit une histoire de vampire à la fin du XVIIIe siècle, il y a des tas d'artistes qui ont suivi. Et moi, je pense notamment à un romantique allemand du début du XIXe siècle qui s'appelait Füssli, un peintre, qui a peint un tableau que vous connaissez forcément parce qu'il est super connu. Si vous n'arrivez pas à le visualiser, évidemment, je vous le mettrai plus tard sur le Facebook d'Osmose Radio, facebook.com/erosmose pour ce qui concerne l'émission. Et donc, c'est ce tableau qui s'appelle Le Cauchemar, et on voit une femme étendue, presque alanguie sur un lit avec la tête penchée vers le bas. On voit une tête de cheval qui émerge de l'ombre dans l'arrière-plan et sur le corps de cette femme une petite créature velue, poilue, démoniaque. Je vous jure que c'est pas Loïc, mais
non, il avait pas les pieds un peu en bouc, tu sais, les pieds de bouc, tu nous montreras, mais je crois pas. Hein.
Alors que ouais, notre charmant régisseur, lui, a des chaussures de marque, comme toutes les racailles. quoi qu'il en soit, ouais, ce tableau de Fuseli, en fait, est sans doute l'expression la plus connue de cette créature, l'incube, en fait, qui est une créature qui vient hanter nos cauchemars, au sens propre comme au sens figuré. Cette peinture de Fuseli...
Il ne fait pas que ça, hein.
Ah, mais tu nous en diras plus tout à l'heure, Laurence, à propos des succubes, justement. Mais justement, bah, nous, dans cette émission, un garçon, une fille, on s'est partagé un petit peu le travail. Moi, pour le moment, j'ai parlé des incubes.
Mais
et après, je te laisserai,
donc,
tu prendras la main pour nous parler des succubes, qui sont aussi un des personnages fascinants et ambigus. Mais les incubes, donc, sont des créatures qui existent dans le bestiaire depuis fort longtemps. On les fait remonter jusqu'à la Mésopotamie. On en a des traces dans la culture romaine. On a des traces au Moyen-Âge. Donc à la période contemporaine, comme je le disais tout à l'heure à propos de ce tableau que je viens de vous décrire. Et en fait, comme beaucoup de créatures, il a permis à nos ancêtres, de créatures fantastiques j'entends, il a permis à nos ancêtres de s'expliquer des phénomènes souvent naturels. Moi, je vois ça de manière rationnelle, hein, c'est le prisme par lequel j'aborde les choses. Mais il y a un phénomène qui est tout à fait explicable scientifiquement, c'est le phénomène de paralysie du sommeil. C'est quand on est en fait entre la phase de sommeil paradoxal et l'état de veille qui précède le réveil, il y a une atonie musculaire, c'est-à-dire que quand on rêve, notre cerveau est programmé pour que notre corps, nos muscles soient quasiment désactivés, en fait, pour pas qu'on fasse des... Si on rêve qu'on court, qu'on soit pas en train de courir de tout bêtement dans notre lit, vous imaginez comme on aurait l'air bête, et en plus, dormir deviendrait très crevant. Donc, il y a ce phénomène, ce processus physiologique et intellectuel, qui consiste à désactiver, entre guillemets, les muscles quand on dort, c'est l'atonie musculaire. Eh bien, des gens, en fait, peuvent être au bord du réveil, dans un état de veille, donc ils sont sortis du sommeil paradoxal durant lequel ils rêvaient, mais ils sentent une paralysie parce qu'en fait ils ont conscience de ce qui les entoure, mais ils ne peuvent plus bouger. Et c'est extrêmement flippant, vous imaginez, comme sentiment. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on peut ressentir une oppression sur le torse, une oppression sur son corps. Et c'est là que... C'est de ce phénomène, sans doute, qu'on explique le principe des incubes, qui étaient des créatures qui venaient dans la nuit, dans notre sommeil, pomper notre énergie vitale. Mais pas à la façon des vampires, en nous... buvant le sang, pas à la façon des harpies, pas à la façon des sirènes qui venaient nous charmer par leur chant, non, non, d'une autre manière, et c'était pendant le sommeil. Et les incubes, justement, je vous disais, il y a des... ça n'a pas toujours été quelque chose de forcément négatif, attention. Ça a quelque chose d'un peu ambigu, de démoniaque, une puissance physique certaine. Mais, par exemple, on a des empereurs romains qui aimaient laisser croire qu'ils descendaient de l'accouplement d'une mortelle, d'une femme humaine et d'un démon incube, par exemple. C'est ainsi que l'empereur Auguste, le premier empereur romain, en fait, avait laissé des auteurs faire son panégyrique, en quelque sorte, faire ses éloges, en laissant entendre aux citoyens romains qu'il y avait une origine un petit peu mythologique dans l'ascendance d'Auguste, et qui descendrait en fait d'un incube et de qui se serait accouplé avec sa mère, et que donc on devait d'autant plus respecter l'impérator du fait qu'il avait une ascendance et une ascendance en fait des parents et des aïeux tout à fait presque non humains en fait, et qui lui donnait peut-être des super pouvoirs en quelque sorte, si je peux résumer les choses comme ça. Voilà. Et donc ben ça, c'est au moment de l'époque romaine. On a des tas d'exemples au moment du Moyen-Âge. Laurence, tu reviendras un petit peu tout à l'heure. Et
Si je retrouve mes notes.
Oui, parce que tu as... Moi,
j'ai un monceau de documentation et je voulais juste te dire, vous n'avez pas la webcam, mais Stéphane parle en direct, lui. Il a tout appris par cœur hier soir. Ça a été formidable, vraiment.
Ah, mais on fait une émission par mois, mais alors je ne vous dis pas toute la documentation qu'on accumule. Et alors moi, j'ai mon PC, Laurence a ses notes. C'est un bordel sur cette table.
Oui,
je
c'est
vous
vrai,
dis pas.
Mais il y a des mandarines.
Voilà, nous sommes les incubes et les succubes d'Osmose Radio, puisqu'on vampirise un peu la table du studio. Et donc, les incubes, après le Moyen-Âge, enfin, avant le Moyen-Âge, avant même l'époque de l'Antiquité romaine, existaient déjà dans les langendes juives, et dont on trouve les premières traces, en fait, dans la mythologie mythologie babylonienne et mésopotamienne avec des créatures qui avaient exactement le même vice que celle que je viens de vous décrire, l'incube. D'ailleurs, le terme incube a une étymologie particulière. Oui. C'est vient du latin, en fait, du bas latin, je crois, qui vient se coucher dessus. Et donc, c'est une créature qui vient de votre sommeil et qui, comme dans le tableau de Fuseli que je décrivais tout à l'heure, se pose sur vous et vous pompe votre énergie vitale comme ça, en fait. Un petit peu comme le font les chats quand vous faites la sieste. Ils viennent se coucher sur votre ventre et après vous vous réveillez, vous êtes crevé. Saloperie de bestiole. Enfin bref. Et
noir, tu veux dire.
Les chats noirs.
Bien sûr. Hein.
On aime les chats de toutes les couleurs dans cette, dans cette émission.
Je suis pour les chats noirs.
Et toi, tu n'es pas le chat noir de cette émission, mais par contre, tu t'intéresses à une créature en particulier, une succube justement, peut-être même la reine des succubes.
Ah ben écoute, alors oui, je voulais juste te faire un petit rappel, parce que quand on a fait ce thème des incubes et des succubes, qui n'est pas le seul thème de l'émission de ce soir, avec le monceau de documentation, peut-être qu'un jour je me recyclerai en documentaliste, c'est formidable, tu cherches un truc et puis tu suis des liens et finalement tu as passé 3 heures à accumuler de la documentation. Mais je pensais aussi, en parlant des incubes, à certains satyres et pans aussi, dont on peut penser qu'eux aussi sont des représentations des incubes.
Tu penses aux pieds de bouc hein.
Oh, oui, tout à fait. Enfin, c'est ce que j'ai lu quelque part. Bon, alors c'est envisageable aussi, parce qu'ils ne sont pas... les satyres et même Pan, ils sont...
Je suis pas trop d'accord avec toi, parce que pour les pieds de bouc, c'est vrai que Pan était une divinité orientale pour la Grèce antique.
Oui,
Donc, peut-être que ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a une cohérence.
Je n'affirme rien.
Mais ce n'est pas une divinité qui... Au contraire, c'était une divinité qui apportait de l'énergie un petit peu.
Enfin, bon, c'était bien de discuter comme ça. Donc, effectivement, en ce qui concerne les succubes, le succube, parce que curieusement, c'est aussi masculin, hein, le nom est masculin. On a dit que c'était le pendant féminin de l'incube. Je me suis intéressée effectivement à une succube connue et pour laquelle j'ai une grande affection, c'est Lilith. Lilith, c'est la démone qui a été décrite dans pratiquement toutes les civilisations, puisqu'on la retrouve dans les mythologies sumériennes et babyloniennes dont tu parlais, mais qui a été repris aussi par les civilisations hébraïques. Elle est citée plusieurs fois, elle est mal citée forcément. Hein. Et suivant les différentes croyances, Lilith, elle est tour à tour la reine des succubes, la reine des enfers, la patronne des sorcières ou des vampires, la première femme d'Adam. Et surtout, elle a mérité son titre de démone dévoratrice, Lilith. Alors moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle représente aussi une certaine idée de femme fatale, de femme indépendante et du pouvoir féminin. Et j'aimais bien aussi cette idée qui est véhiculée par moi-même. Et c'est pourquoi, pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y a des associations qui utilisent son image pour lutter pour les droits des femmes. Et que peut-être que Lilith, c'est le plus ancien mythe de la révolte féminine, mais on aimerait bien savoir qui elle est au juste. Alors, je vais juste vous rappeler l'histoire vite fait. Une des histoires, hein, parce que qui la prouve, on ne sait pas trop. Moi, j'ai pris la version hébraïque. Entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ, les rabbins vont emprunter le mythe de Lilith aux civilisations anciennes pour expliquer la Genèse, c'est-à-dire la création de la terre et de l'homme. Lilith devient donc la première femme d'Adam. Dieu la créa en même temps qu'Adam, avec la même terre d'argile pour le servir. Mais très vite, Lilith se rebelle. Elle veut être considérée comme l'égale d'Adam et ne veut plus être en dessous de lui lorsqu'ils font l'amour. Une violente dispute éclate, Adam la frappe. Elle invoqua alors le nom de l'Éternel et des ailes lui poussent. Elle part de l'Éden, abandonne Adam. Devant les plaintes d'Adam, Dieu envoie 3 anges la récupérer. Mais Lilith ne veut pas revenir et surtout ne veut pas se soumettre à Adam. Devant ce refus, les anges capitulent et passent un marché avec elle. Les anges lui donnent le pouvoir de tuer tous les enfants mâles jusqu'à la circoncision, environ 8 jours, et tous les enfants femelles. Jusqu'à 20 jours. En contrepartie, elle verra 100 de ses enfants mourir chaque jour et elle devra laisser les enfants vivre s'ils sont protégés par des amulettes au nom des 3 anges. Le marché est accepté par les 2 parties. C'est depuis ce jour qu'aux enfers, 100 démons inférieurs meurent tous les jours. Donc elle a plusieurs représentations dans le monde, cette fameuse Lilith. Elle a même plusieurs représentations physiques. Quelquefois, on la croit plutôt rousse, tu sais.
Ben, en tout cas, dans les tableaux de l'époque romantique que je décrivais tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est souvent représentée, avec un serpent.
Oui, tout à fait. Ben, tout à l'heure, on parlait justement de ça parce qu'elle est représentée à la fois par des serpents, mais chez les Sumériens et les Babyloniens, Lilith, elle est représentée comme une femme ailée aux pieds se terminant par des griffes, debout sur deux lions qui se tournent le dos, et elle est entourée de chouettes. C'est la femme chouette, divine, considérée comme reine des succubes et des enfers. Elle symbolise donc la séduction et les plaisirs interdits.
C'est marrant parce que dans la Grèce antique, Athéna avait l'attribut de la chouette aussi. Et Athéna, c'est une déesse en armes, donc il ne s'en laisse pas compter par les hommes.
Oui, bah écoute, Lilith...
Je ne sais pas si... Je ne dis pas qu'il y a une corrélation, hein, mais tu m'apprends le truc.
Oui, parce que, tu vois, dans la représentation, on montrera sur la page d'Erosmos la représentation de Lilith de l'ère babylonienne. Et ils ont écrit l'ère comme une ère de repos. C'est drôle. L'ère babylonienne a hier...
Parce qu'on aime se reposer dans Babylone, Rastama.
Babylone. En parlant de Babylone, c'est aussi... Lilith, c'est aussi un texte, un roman écrit par Alina Reyes, qui est une spécialiste de la littérature érotique. Moi, j'avais commenté le livre Le Boucher. C'est juste au moment aussi, je fais une petite digression. Donc, elle a écrit un livre, elle n'est pas la seule, sur Lilith. Et elle a choisi d'ailleurs... la ville de Lone, et c'est une histoire de baby un peu alone in Babylon, tu vois. J'ai pas lu le bouquin, mais j'aime bien Alina Reyes, donc je le lirai à l'occasion.
Tu nous en liras une prochaine émission.
Tout à fait. Et donc, tu vois, dans la civilisation minoenne, soit 2700 à 1200 avant Jésus-Christ, je vérifie, mais parce que là, franchement, les dates, Lilith, c'était la déesse au serpent, mais toujours superbe et dévoratrice.
Ah
donc
oui.
Elle a plusieurs représentations possibles qui sont... Elle est parfois aussi chthonienne, appartenant à la terre, aérienne ou aquatique. Mais en général, elle véhicule une image de femme dévoratrice d'hommes, dotée d'une sexualité dépravée, tout en étant le symbole de la frigidité et de la stérilité. Comme quoi, tu vois
Alors ça, à mon avis, c'est un attribut qu'on lui donne, parce que fait qu'elle a une sexualité débridée, les rabbins, etc., toutes les autorités, qu'elles fussent religieuses ou non, préfèrent dire que lui donner un mauvais rôle et lui attribuer une stérilité qui n'est pas forcément le cas.
Elle a de toute façon toujours le mauvais rôle, Lilith, et même dans des représentations de tu vois, là, on montrera aussi, et moi j'aime beaucoup cette image, mais elle est pas mal aussi, elle a des grandes...
Alors ça, c'est une image de démon tout à fait contemporaine, effectivement, avec des grandes ailes de chauve-souris que tu me montres à l'instant.
Mais bon, de toute façon, les histoires des succubes et incubes ont aussi donné de la matière aux psychanalystes. Peut-être que toi, tu peux en parler, mais c'est vrai que c'est toutes ces frayeurs, toute cette sexualité, parce que quand même, bon, Lilith, elle visite aussi, elle peut visiter, tu le savais aussi.
Elle peut visiter, je vois ce que tu sous-entends, les auditeurs aussi sans doute.
Auditeurs, chers auditeurs, vous n'invoquez pas les incubes et les succubes, même si vous êtes amateur d'émotions fortes. Il ne faut pas faire ça, c'est très très dangereux. Vous pourriez vous retrouver aux enfers assez rapidement. Vraiment, si vraiment vous voulez les invoquer, tout à fait en fin d'émission. Moi, j'ai quelques petits rituels de désenvoûtement, ou pas du tout, mais si vous les invoquez, si vraiment vous voulez vous faire...
Alors, quand je vous dis de picoler, je vous dis toujours avec modération. Et quand Laurence vous dit d'invoquer des démons, c'est avec modération aussi.
Invoquer les démons, si vous voulez passer une nuit un petit peu chaude, un petit peu différente de ce que vous avez peut-être l'habitude de vivre. Je ne sais pas, moi.
Dis-nous en plus, vas-y.
Mais faites comme vous voulez. Mais enfin, bon, il est quand même recommandé. L'Église interdit. Ne recommande pas, en tous les cas. Et puis, même pour avoir été chercher un petit peu loin dans Internet, je suis vraiment allée loin, je me suis retrouvée dans des sites de magiciens un peu noirs, des sites de sorciers. Eh bien, ils font peur, les petits gars. Mais enfin, ils ont tous des rituels de désenvoûtement. Et si jamais vous avez été visité, il va vous en coûter très cher parce que vous avez déjà un pied vers les enfers. Heureusement, il y a des rituels de désenvoûtement. Bon, on en parlera ou pas. Mais bon, moi, j'aime beaucoup Lilith. Et Lilith, elle a aussi été... elle a été pourvoyeuse, tu disais tout à l'heure, d'émotions fortes pour certains écrivains. Pas trop, mais je voulais quand même citer. Elle est citée, les incubes et les succubes sont cités par Honoré de Balzac dans un livre qui s'appelle « Les contes drôlatiques », qu'il a écrit un peu, parce qu'il aimait beaucoup Rabelais. Donc, il a écrit La manière de Rabelais en vieux François. Donc, je ne peux pas vous en parler parce que c'est vraiment un gros, gros bouquin et que ce n'est pas très facile. Quelquefois, c'est traduisible assez facilement, quelquefois non. Et je ne suis pas une grande spécialiste du vieux François. Mais pour ce que j'ai pu lire, c'est extrêmement bon. Donc, ça s'appelle Les Contes drôlatiques d'Honoré de Balzac. C'est assez savoureux, un peu comme Rabelais, hein, un peu à la manière de Rabelais. C'est assez truculent. Bon, lui, il s'est servi de ce thème parce que l'Église aussi, l'Inquisition a aussi condamné assez
catégoriquement,
férocement ceux qui avaient été soi-disant visités.
C'est le plus souvent d'ailleurs, ça coïncidait sur le texte des procès en sorcellerie.
Donc, même chez Balzac, se moque un peu de tout ça gentiment et avec talent. Et évidemment, il y a, si vous voulez, je vous lis un petit poème de Baudelaire avant, comme tu veux.
Ah oui, bien sûr.
Alors, il y a aussi Baudelaire qui a été aussi très intéressé par ce thème. Il a un très beau poème dans Les Hymnes à la beauté. Alors, je vais vous le lire. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme? Ô beauté, ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore, tu répands des parfums comme un soir orageux, tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, beauté dont tu te moques. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant et le meurtre parmi tes plus chères breloques sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. L'éphémère ébloui vole vers toi. Chandelle, crépite, flambe et dit « Bénissons ce flambeau !» L'amoureux pantelant, incliné sur sa belle, a l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton sourire, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime, et n'est jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. C'est du châle, hein, quand même. Hein.
Ah oui, c'est classe quand même.
C'est très beau, c'est hymne à la beauté, c'est directement adressé à la reine des succubes. Enfin, c'est adressé au succube. C'est moi qui dis que c'est directement adressé à Lilith parce que je l'ai reconnu.
D'accord. Voilà. Il avait écrit « Ô Satan, prends pitié de ma longue prime misère pour le prince des ténèbres et pour la reine des succubes. »
Oui,
des
oui.
Succubes,
voilà. Sinon, il y a Victor Hugo aussi dans « La fin de Satan » qui a écrit des choses assez intéressantes sur les succubes. Mais si vous me permettez, moi, j'ai trouvé un pastiche. C'est le seul morceau gratiné de cette soirée.
Ah.
Parce que c'est un pastiche du sonnet d'Arvers d'Hugo. Alors, on peut le lire après dans sa version originelle. Ce sonnet, il a été écrit par Victor Aioli, qui s'auto-proclame fainéant robuste. Donc, c'est le sonnet d'Arvers à revers. Attention, hein, c'est quand même un peu gratiné. Hein. Son con est sans secret, sa vulve est sans mystère, mais j'ai pris cette nuit en un moment son cul. Elle était endormie, aussi j'ai dû me taire. Celle à qui je l'ai fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais piné près d'elle inaperçue, sans me l'asticoter et pourtant solitaire. J'aurais planté mon bout dans cette jeune terre et sans rien demander, elle aura tout reçu. En elle, à qui Dieu fit la fesse douce et tendre, je suivrai mon chemin me distrayant d'entendre ce bruit que dans la glaise on fait à chaque pas, ou peut-être de voir ma semence fidèle, elle dira, vidant son cul tout rempli d'elle. Quel est donc ce blanc d'œuf ? Il ne comprendra pas. Alors que le sonnet d'Arvers, il est beaucoup plus calme, la version d'Hugo, beaucoup plus calme. C'est « Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu, le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. » Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin, distraite et sans entendre. Pardon, ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers tout remplis d'elle, « Quelle est donc cette femme ?» et ne comprendra pas.
Ouais, bon, d'accord, donc ça c'était le texte original.
Ça c'est, dans les, c'est le vrai texte de Victor Hugo. Moi j'ai bien aimé le pastiche, c'était la version un petit peu gratinée. Mais ce n'est pas dans les extraits de la fin de Satan où Victor Hugo parle un peu des incubes et des succubes. Ça c'était juste un pastiche que j'avais trouvé intéressant parce qu'on peut supposer que... On peut supposer plein de choses.
Voilà, on va vous laisser supposer.
Voilà, on peut supposer, on peut tout supposer. Voilà, donc... À toi, Stéphane.
Eh bien, il n'y avait que Laurence pour vous débusquer des textes comme ça dans la littérature française.
Mais je m'amuse. Hein.
Et encore, elle s'est limitée au français d'aujourd'hui parce qu'elle aurait pu vous trouver des trucs en vieux français que d'après ce que j'ai compris. Moi, mes seules références littéraires en ce qui concerne les incubes et les succubes, ça a été le Horla de Maupassant,
oui,
auquel
vrai.
J'ai repensé pendant, en préparant cette chronique.
Absolument.
Et c'est marrant parce que tout à l'heure, là, ça m'est venu à l'idée en écoutant tes propos plus précisément, c'était le fait que la position du missionnaire, pour ce qui est des positions sexuelle était celle pour qui facilite le plus la procréation et du coup c'est elle qui a été soit imposée soit largement suggérée par toutes les autorités en place qui avaient besoin soit de soldats soit de paysans soit de sujets durant ces époques là et même encore aujourd'hui dans certains milieux de sorte que toutes les positions sexuelles qui s'éloignent de celles-ci sont très mal vues, notamment les positions où la femme prend le dessus et où elle peut d'autant plus stimuler son plaisir de diverses façons. Je pense notamment à ce qu'on appelle la position de l'Amazone ou la position d'Andromaque, qui sont deux personnages féminins au caractère bien trempé et qui sont parfois mal vus dans l'histoire et dont les positions donc illustrent un petit peu ça. Et donc des femmes qui viennent sur vous dans votre sommeil pour vous pomper votre énergie vitale, quelque part dans l'imaginaire, ça se rapporte aussi à ces positions-là. Je viens juste d'y penser en écoutant tes propos. Voilà.
Allez. La prochaine émission portera sur le Kama Sutra.
Mais on dit ça à chaque émission.
Mais oui, on le dit, mais on va le faire.
Mais un jour, on va le faire.
On va le faire, on va le faire.
Allez, pour conclure sur ce sujet des incubes, des succubes, qu'on tenait à aborder à l'occasion d'Halloween, qui était il n'y a pas si longtemps, eh bien, je vais préciser quand même deux petites choses que j'ai oubliées tout à l'heure, pardonnez-moi. C'est que, donc, outre les références littéraires que tu viens de donner, Laurence, il y a aussi des références étymologiques dont je parlais tout à l'heure. Et justement, je disais que le terme incube venait du bas latin, en français, le terme français incube, venait du bas latin qui signifie coucher sur. Et le terme succube, lui, signifie coucher sous.
Exactement.
Donc déjà, dans la différence entre les deux termes, alors qu'a priori, il n'y a pas d'obligation à... On pourrait très bien utiliser un seul mot pour les deux créatures. Eh bien non, on en a utilisé deux. Et celui qui concerne les démons femelles, eh bien forcément, est sous l'homme, sous le dormeur, alors que le démon homme masculin est sur le dormeur. Donc déjà, tu vois, ça revient pour retomber sur mes pattes, sur ce que je disais à propos des position sexuelle tout de suite, il y a une misogynie latente dans le choix des termes, là encore.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Lilith, parce qu'elle est rebelle.
Eh bien justement, tu ne crois pas si bien dire, puisque le terme par lequel on désignait les incubes à l'époque de Babylone, des Mésopotamiens, tout ça, et je conclurai là-dessus, c'était le terme Lilu, qui a donc donné Lilith, le nom du démon dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, chers amis, allez, j'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller soit sur Internet, soit à la bibliothèque, soit sur le Facebook.
Mais allez-y, c'est passionnant.
D'Osmose Radio ou d'Erosmose pour apprendre des trucs à propos de toutes ces créatures étranges. On va écouter quelques notes de musique tout de suite avec un groupe qui, lui aussi, s'inspire des incubes et des succubes. C'est le groupe de rock britannique Incubus Succubus avec le titre Goddess of Shamane.
But it really is a world away. Time.
Goddess of Shamaine, la déesse d'Halloween en quelque sorte, c'était le titre du morceau qu'on vient d'écouter, un titre d'Incubus Succubus, un groupe de rock anglais qui faisait ce petit détour charmant par la musique folk. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Osmose Radio, chers amis, vous êtes bien avec Laurence et Stéphane oui. dans Erosmose.
Vous êtes bien.
Vous êtes
nous.
Bien. Si Laurence vous le dit, je vous invite à la croire. Et dans une première partie d'émission, on abordait un des grands thèmes de ce début novembre. C'était donc les fêtes d'Halloween et de la Toussaint et la fête des morts, tout ça. À propos d'une chronique sur les incubes et les succubes, si vous l'avez loupé, si vous prenez l'émission en cours, bien entendu, vous pourrez retrouver tout ça sur le site et les podcasts d'Osmose Radio, osmose-radio.fr. Donc dans une seconde partie d'émission, on va parler d'un autre événement de la seconde. En seconde partie d'émission, on va parler d'un autre événement de début novembre qui a fait l'actualité récemment. C'était évidemment les commémorations de la fin de la Grande Guerre il y a 100 ans. Et évidemment, nous, on a choisi d'aborder tout ça sous le prisme qui nous intéresse dans cette émission, à savoir les conséquences sur les conceptions autour de l'érotisme, sur les mœurs autour de la sexualité, et plus généralement, eh bien, comment tout ça s'est traduit, les grands bouleversements de la Grande Guerre, comment ils se sont traduits au niveau culturel et sociaux notamment. Alors, je vais aborder ce thème-là, en fait, qui me tenait à cœur. Hein, j'en ai déjà parlé l'autre jour dans l'heure du loup. Et déjà, je vais aborder un thème et casser un petit peu une légende urbaine qui est encore vivace, hein, c'est la légende du bromure qu'on mettait dans le vin des soldats. Alors en fait, c'est apparu au cours de la Première Guerre mondiale, durant lesquelles il y avait énormément de soldats sur le front, où l'intendance était absolument gigantesque, et où on donnait beaucoup de vin aux soldats, parce que déjà c'était une époque où les gens buvaient beaucoup, pas forcément du très bon vin, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément alcoolisés, hein, mais c'est vrai qu'ils buvaient beaucoup plus de vin que dans nos usages d'aujourd'hui. Et donc, ça faisait partie de la ration du soldat, c'était normal. Et pour calmer un petit peu les ardeurs des soldats qui étaient loin de leurs femmes, qui étaient loin aussi des bordels militaires. Et peut-être aussi le commandement aurait pu avoir peur quu'ils s'enculent entre eux, hein, tout simplement. Il y a eu cette légende comme quoi on aurait mis du bromure, qui était un médicament en vogue à l'époque, dans le vin des soldats pour que en fait, leur libido soit en berne. C'est une substance chimique, le bromure, qui était utilisé en tant que médicament, notamment dans les cas à l'époque, dans les années 1900 et 1910, dans les cas d'épilepsie. Et donc, on considérait que c'était un calmant pour tout ce qui est système nerveux. On s'est dit, tiens, mais on va en mettre dans le vin des soldats. En fait, il y a eu des tests. Réellement, il y a eu des tests qui sont restés plus ou moins secret défense, mais ça n'a pas été concluant. Et du coup, on n'en a pas vraiment mis dans le vin des soldats, ne serait-ce que parce que ça aurait coûté, comme disait l'autre imbécile, un pognon de dingue. Mais c'est une légende qui a la vie dure. On en a parlé pendant toute la Grande Guerre, malgré la censure, on en parlait dans les troquets ou dans les conversations à l'épicerie, mais évidemment la presse était contrôlée. Mais c'est une légende qui est revenue pendant la Seconde Guerre mondiale, la drôle de guerre, quand les soldats étaient cantonnés derrière la ligne Maginot. Et on en a même reparlé encore pendant la guerre d'Algérie, vous voyez. Donc, ça a vraiment la vie dure. Et faut croire que c'est qu'une légende urbaine, apparemment. Et tous les éléments que j'ai trouvés en faisant mes recherches vont dans ce sens-là. Et évidemment, même avec ou sans bromure, les soldats, quand leur vie, c'était aussi beaucoup d'ennuis hein, entre deux attaques et entre deux bombardements quand ils étaient dans leur tranchée. Et évidemment, quand on a fini de faire son ménage, de repriser son pantalon et de graisser son fusil, eh bien, on gamberge et on compense beaucoup aux femmes qui sont tellement loin, soit qu'on en ait une qui nous attend, soit que on en cherche et on fantasme un petit peu dessus. Et un témoignage intéressant qui vient de l'archéologie, ce sont les graffitis qu'on trouve dans les cavernes, par exemple, où étaient cantonnés certains soldats. On trouve en Champagne des cavernes de craie ou un petit peu plus loin des cavernes dans les Ardennes, je crois, des cavernes un petit peu plus anciennes, que ce soit dans des témoignages de soldats allemands, américains, britanniques ou français. Eh bien, on trouve des gravures sur les murs, en fait, des graffitis, tout simplement, en fait, sculptés, gravés plutôt.
Sexuel non, vas-y.
Alors, il y a des caricatures de généraux, il y a des noms, par exemple, John Mayford du Massachusetts est venu ici tel jour à telle heure, tu vois. Il y en a d'autres, effectivement, des images de caractère sexuel où on voit des scènes un petit peu érotiques, tout ça, voilà. Je les retrouverai. Je vous le mettrai sur le Facebook d'Erosmos pour que vous puissiez vous faire une idée. Il y a des tas de témoignages et d'exemples qui sont foisonnants que j'ai trouvés en préparant cette chronique. Et je pourrais vous les donner de manière un petit peu décousue. Et ce n'est pas l'envie qui m'en manque parce que ce n'est pas les éléments intéressants qui font défaut, croyez-moi. Mais il y a quand même une cohérence derrière tout ça, c'est que la Première Grande Guerre a été un moment de bouleversement sociaux, hein, les politiques, parce qu'il y a des empires qui se sont écroulés, des États qui sont nés à ce moment-là, des bouleversements sociaux, parce que les gens, après avoir vécu ça, n'ont plus jamais vu les choses de la même façon. Évidemment, tout ça, ça sera traduit sur le plan culturel aussi beaucoup. Et il y a une ligne directrice derrière tout ça, c'est que ça a été aussi une période de révolution sexuelle. Enfin, ça a été l'aube d'une révolution sexuelle dans l'entre-deux-guerres, qu'on a appelé les années folles, en fait. Les années folles, parce qu'on y a fait beaucoup de folies, tout simplement. Alors après, il faut relativiser, hein, ça ne concernait pas toutes les couches de la population. Les gens qui avaient du pognon s'amusaient beaucoup plus que les pauvres, mais quand même...
C'est toujours actuel.
N'est-ce pas ? Mais c'est vrai que la libération sexuelle, à mon avis, s'est amorcée à ce moment-là, même si elle n'a concerné non seulement qu'une partie de la population en fonction des classes sociales, mais aussi elle a quand même été plutôt l'apanage des hommes. Les femmes n'étaient pas toujours en reste, mais tout de même. Et donc, je vais vous donner quelques exemples qui vont un petit peu dans ce sens-là, et c'est ça ma ligne directrice. Alors, par exemple, un truc tout bête, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on a fait venir des troupes coloniales en France. Et il y avait donc les hommes étaient au front, et il y avait des femmes dont le mari était loin, ou dont le mari était des veuves, dont le mari était mort, qui voyaient passer, défiler dans les rues des soldats noirs, et c'est la première fois qu'elles en voyaient. Tout simplement. Voilà. Ou alors, dans les troupes, dans le corps expéditionnaire canadien, eh bien, il y avait des Amérindiens. Donc, ces garçons qui sont imberbes, qui viennent du fin fond de la forêt du je ne sais où, et qui sont beaux gosses, ou alors des Noirs qui viennent de l'Afrique. Et les femmes, elles avaient vu des Noirs, mais uniquement sur les boîtes de chocolat Banania. Oui. Et donc, il y avait non seulement l'imaginaire colonial français, mais en plus le choc culturel de voir un homme qui est tellement loin de ce qu'on a connu. Et ça créait un choc érotique. Je ne dis pas que toutes les femmes qui ont fantasmé sur un noir ou un amérindien ou un indien de l'Empire, un Sikh par exemple, de l'armée britannique ou quoi, étaient des dépravés, etc. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est tout à fait humain que quand on voit quelque chose qui nous est totalement inconnu, ça incite non seulement à la curiosité, mais aussi parfois tout simplement au fantasme. Et des fantasmes qui ont pu se réaliser parce que des couples et des unions se sont créés à ce moment-là. Ce qui a permis à Hitler, 20 ans plus tard, de dire que les Françaises étaient toutes des putes parce qu'elles couchaient avec des Noirs, parce que des femmes étaient tombées amoureuses de soldats africains à ce moment-là. Voilà, mais bon, ces conclusions n'engagent que
c'est intéressant, hein, c'est vraiment très intéressant. Moi, je t'ai laissé cette partie de cette deuxième partie
mais,
à traiter.
Ouais, ouais. Mais pour tout ce qui est des lettres de soldats, on a beaucoup de choses à dire aussi, et tu en as encore plus que moi, c'est vrai. Et alors, il y a un autre truc aussi, c'est que y a les hommes qui étaient blessés a été donc du coup passifs dans les hôpitaux. Et là, ils ont côtoyé des infirmières. Et là, par contre, c'est une thèse personnelle, ça n'engage que moi, hein, chers amis. Mais je pense que le fantasme de l'infirmière, qui est nue sous sa blouse, la salope, qui a des petits uniformes coquins, etc., eh bien, à mon avis, c'est beaucoup renforcé à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il est apparu pendant la Grande Guerre. Hein. À mon avis, il existait avant, ne serait-ce que parce que pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à l'invention de la Croix-Rouge, en fait, à la fin du XIXe siècle, les femmes étaient souvent des religieuses, enfin, les infirmières étaient souvent des religieuses. Et les caricatures un petit peu sexuelles sur les religieuses, tout ça datait de pas même avant le marquis de Sade, hein, largement. Et donc, tous ces clichés un petit peu coquins sur l'ingénue, sur la nonne, etc., se sont retrouvés un petit peu 150 ans plus tard dans le caricature de l'infirmière qui ont fait preuve d'une grande abnégation dans ces années-là, quand même, parce que avec ce qu'elle vivait, ce qu'elle voyait, fallait avoir les tripes pour ça, quand même, et qui, en même temps, étaient dans ce côté maternant des soldats et qui, eux, étaient réduits à la passivité alors qu'en fait, ils étaient montés à l'assaut, etc., pendant des années avant. Et tout d'un coup, ils étaient blessés, ils étaient immobilisés dans un lit, voire plus, parce que parfois, ils étaient même défigurés. Du coup, ça a créé, je pense, un fantasme, ça a renforcé le fantasme autour de l'infirmière, son uniforme, qui ressemblait beaucoup à celui des religieuses, même quand c'était des civils. Donc, tout ça s'est retrouvé, ces fantasmes se sont retrouvés dans les mouvements artistiques de l'entre-deux-guerres, notamment dans le surréalisme, bien entendu. Et là, j'ai un exemple précis, c'est le peintre qui n'est pas très connu, mais qui s'appelait Clovis Trouille, qui a fait des personnages comme ça, de nonnes et d'infirmières, dans des situations un petit peu olé olé, que donc c'est difficile de vous décrire les tableaux sans être un peu graveleux, donc du coup je vous les publierai sur internet. Voilà. Un autre truc aussi, c'est que des soldats étaient venus de loin, je pense aux Australiens, aux Néo-Zélandais par exemple, qui étaient venus pour défendre la patrie des droits de l'homme, et ces hommes-là, pour beaucoup, étaient morts dans les tranchées. Et du coup, étaient inhumés dans les cimetières militaires, dans la Somme, par exemple. Et les veuves australiennes, quand elles venaient dans les années 1920 se recueillir sur les tombes, elles le faisaient, bien entendu, mais elles en profitaient aussi pour faire un détour à Paris et aller dans les cabarets, s'encanailler un peu.
Paris sera toujours Paris, quand même.
Voilà, tout simplement. Et il ne s'agit pas, là encore, de faire un jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que c'était forcément des garces ou quoi, mais simplement, si les hommes étaient venus pour défendre la patrie des droits de l'homme, cette image, ce fantasme qui colle un petit peu à l'identité de la France, eh bien, il y en a un autre, c'est que Paris, c'est la capitale de l'amusement, de l'entertainment, du cabaret, etc. Et ces veuves australiennes, qui n'avaient pas forcément fait des mariages d'amour, hein, d'ailleurs, on comprend d'autant mieux leur réaction quand elles étaient venues s'encanailler un petit peu, quand elles avaient l'occasion de faire des voyages aussi loin. Voilà, c'est un autre exemple. Sinon, j'ai pas cité tout ça, et on peut aussi dire, évidemment, qu'il y a les lettres, que tous ces témoignages d'un érotisme qui ne se concrétise pas dans l'acte d'amour est très très fort dans des témoignages historiques fort intéressants. Ce sont les lettres de Poilu. Et évidemment, on pense à Apollinaire qui en a écrit beaucoup, mais il y en a d'autres, et ça, Laurence, tu sauras en parler mieux que moi.
Pas vraiment, parce que je n'ai qu'Apollinaire sous le coude, et pour cause, hein, puisqu'il était quand même... il n'était pas loin d'ailleurs, hein, il était à Nîmes. C'est lui qui disait quand même... Il y a des mots qu'on lui a reprochés. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon Dieu, que cette guerre est jolie.
Oh, que la guerre est jolie. Ça fait partie d'un de ses poèmes. Et je pense qu'il parlait des fusées éclairantes sur les champs de bataille. Non,
en même temps, il aimait bien faire la guerre, tu sais. Il a bien aimé faire la guerre, Guillaume. Il l'a dit.
Mais il y a beaucoup de mecs, en fait, qui s'étaient... Ce qu'on ne sait pas beaucoup, je m'excuse de faire un aparté, c'était dans un spectacle au Festival Off d'Avignon qui s'appelait Cabaret Blanche, que j'avais interviewé il y a quelques temps pour Osmose, et qui m'a expliqué qu'en fait, au début de la guerre, en 1914, il y avait vraiment un engagement idéaliste qui venait un peu de la propagande nationaliste que tous les Français avaient bouffé depuis l'école primaire, quasiment. Hein. Et donc, il y en avait beaucoup qui ont voulu s'engager et qui n'ont pas pu. Parce que physiquement, ils n'étaient pas aptes. Tout simplement, ils pouvaient pas porter l'uniforme et on pensait qu'ils n'étaient pas assez endurants. Donc, ils ont été réformés. Et ceux-là, on les a considérés pendant la guerre comme des planqués à l'arrière, alors qu'en fait, ils auraient aimé se battre. Et donc, en contraste, ceux qui y étaient avaient aussi cet honneur, qu'on retrouve aussi dans les paroles de cette chanson célébrissime, la chanson de Craon, cet honneur de défendre, même si on souffre, même si on en chie, même si les femmes nous manquent, y a cet honneur aussi et cette niaque de vouloir défendre le pays, et aussi nos épouses qui sont derrière nous, 20 km après les tranchées. Voilà. Et du coup, on se retrouve ça dans les textes aussi.
Ah ben tout à fait. Alors, je voulais quand même juste te dire quelque chose, parce que moi, j'ai un petit peu regardé le sujet, mais je savais que tu allais le traiter beaucoup mieux que moi. Je voulais quand même apporter ma petite touche personnelle, c'est que bon, les hommes sont dans les tranchées, et c'est pas marrant. Les femmes sont aux travaux, hein. C'est elles qui ont fait tourner les boutiques, hein, grosso modo, y compris les usines de munitions. Elles ont quand même pris la place des hommes et pour cause. Et quand même, après que la guerre se termine, on les prie, ces femmes, de revenir à leur fourneau. Et il faut le dire aussi. C'est quelque chose qui m'a marquée aussi. Moi, je voulais te poser une question parce que tu as bien étudié le sujet. Il y avait des permissionnaires. Il y avait aussi des permissionnaires qui ne pouvaient peut-être pas rentrer complètement chez eux. Ils allaient au bordel. Est-ce qu'il y a eu des bordels aussi organisés pour les soldats ?
C'était bien organisé d'ailleurs, pour éviter justement la syphilis qui faisait des ravages.
Voilà. Et juste à propos des lettres, des petites lettres, moi j'ai regardé, il y a des petits-enfants qui ont retrouvé, bien après le décès de leurs grands-parents, des boîtes dans lesquelles il y avait des correspondances, et où on lit une correspondance dont on ne sait pas toujours si l'homme est revenu du front. On sait pour certains qu'ils sont morts, et pour d'autres non. Et au fur et à mesure où la correspondance se déroule, alors elle commence, elle est très sobre, elle est très, très gentille, elle est très douce. Et puis, au hasard d'une permission, parce qu'il y a urgence quand même, le fiancé ou le fiancé potentiel rentre en permission et l'urgence est telle qu'ils vont croquer la pomme. C'est pas, ils n'ont pas le temps, c'est urgent. Donc, naîtront des enfants, sans père pour certains. Et la correspondance se fait de plus en plus érotique. Alors, on est quand même dans les années 14-18. Quand je dis que c'est érotique, c'est érotique. J'ai trouvé des très jolis morceaux que je n'ai pas recopiés. Je te faisais confiance. J'aurais peut-être dû. J'ai trouvé des choses très, très jolies, des petites longueurs d'érotique. Elle attend, et cette correspondance que le soldat attend également. Il y a eu une grosse, grosse correspondance pendant cette guerre, avec une censure qui n'était pas une vraie censure. De toute façon, quand ça passait, ça passait. Et des petits dessins derrière les enveloppes. Hein. Il y avait de temps à autre des petits dessins très évocateurs. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu. D'accord. Des jolies petites cartes postales, mais des petits dessins aussi qui en disaient long.
Veux-tu nous lire un texte d'Apollinaire, par exemple,
celui dont on parlait de Guillaume, parce que évidemment Guillaume, il est allé à la guerre et à l'époque il avait sa petite Lou, il l'aimait beaucoup, il avait rencontré Lou de Coligny-Châtillon, il lui a dédié d'ailleurs toute une série de poèmes, les poèmes à Lou. Comme ils ont correspondu très longtemps, ils s'étaient quittés, mais ils ont continué à correspondre. Après, il est parti pour Madeleine. C'est Apollinaire, hein. Il y a eu Marie-Laurence, hein. Il y a eu beaucoup de monde. Hein.
Mais ça prouve qu'elle aussi était relativement. Ces femmes-là étaient relativement libres déjà avant la guerre.
Tout à fait, tout à fait. Et donc là, j'ai trouvé ce poème dans les poèmes à Lou. C'est un poème qui date du 4 février 1915, que je trouve particulièrement joli. Ça s'appelle « Mon très cher petit loup, je t'aime ». C'est le titre, hein ?« Mon très cher petit loup, je t'aime. Ma chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime. Sein gauche si rose et si insolent, je t'aime. Sein droit si tendrement rosé, je t'aime. Mamelon droit, couleur de champagne non champanisé, je t'aime. Mamelon gauche, semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître, je t'aime. Nymphes hypertrophiées par tes attouchements fréquents, je vous aime. Fesses exquisément agiles qui se rejettent bien en arrière, je vous aime. Nombril semblable à une lune creuse et sombre, je t'aime. Toison clair comme une forêt en hiver, je t'aime. Aisselle duvetée comme un cygne naissant, je vous aime. Chute des épaules adorablement pures, je t'aime. Cuisse au galbe aussi esthétique qu'une colonne de temple antique, je t'aime. Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains, je vous aime. C'est beau, non ?
Ça ressemble à des litanies, tu sais, cette forme poétique qui vient de l'écriture
petit,
religieuse.
Un petit peu des litanies. Il n'a pas beaucoup de papier, il écrit à loup, et puis bon, il est Guillaume Apollinaire, il est poète, il a un goût pour l'écriture, il a un goût pour le sexe aussi. Il n'a pas encore reçu son projectile dans la tombe, donc il peut écrire à peu près droit, et il écrit à loup. Bon, après, il y a des correspondances un peu plus enflammées. Mais celle-ci est pas mal quand même.
Oui, c'est pas mal du tout.
Voilà.
Et on aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission. Mais c'est vrai que tu parlais, et à juste titre, des femmes qui ont pris la place des hommes dans les usines d'armement, parce qu'il fallait bien que celle-ci tourne pour que les gars puissent, au fond, puissent se foutre sur la gueule, malheureusement. Et du coup, ça fait que quand les hommes étaient prisonniers, ils pensaient beaucoup aux femmes. Et ils apprenaient, et de très loin, ce qu'il se passait dans la mère patrie, en fait, et tous les changements sociaux qui se faisaient sans eux. C'est aussi un petit peu un exemple qu'on peut voir dans un film qui me tient à cœur, à mon avis, un des meilleurs films de tous les temps. C'était La Grande Illusion de Jean Renoir, quand on voit Jean Gabin, Pierre Fresnay et tous les autres acteurs incarnant des prisonniers dans un Auflag en Allemagne en 1916, comment ils voient les choses.
Dis donc, on entend, les caisses sont arrivées.
Les costumes ?
Mais oui, elles sont au théâtre.
Oh, il doit y avoir une caisse pleine de robes de femmes. Des vraies.
Oh, des robes de femmes ?
Vous venez, mon capitaine ?
Non, ma compétence en matière de théâtre est assez discutable. Puis j'ai affaire.
Une petite réussite, sans doute ?
Précisément, moi je suis un réaliste. À tout à l'heure, messieurs.
À tout à l'heure.
Alors Arthur, t'as rien trouvé ?
Non, je n'ai rien trouvé.
Alors monsieur, amusez-vous bien. Vous en êtes Arthur.
Au revoir. Attention,
non,
doucement.
Sans blague.
Où est-ce qu'on va ranger tout ça?
Je sais pas, j'avais demandé qu'on mette aussi des cintres.
Des cintres, il va y en avoir.
Ah, voilà. Ouais, attention, attention. Ce sont des objets qu'il faut manier avec précaution, en fermant les yeux.
Et une vraie robe, les gars.
Comme elle est courte, on dirait une robe de petite fille.
Quoi, bah les femmes mettent des robes courtes maintenant. Madame.
Oui, juste en dessous du genou.
Oui, on m'en a écrit. Oh, je crains bien voir ça.
Eh ben, t'as qu'à la mettre, tiens.
Oh oui. Non, sans blague, dis pas lui. Il est trop mal rasé. Non, toi, mets en œuvre avec ta figure d'ange.
Ça vous amuse?
Tiens, prends ça.
On va leur faire l'inventaire de tout ça, on n'y reconnaît plus rien.
Bien ça, tiens.
Tiens, pile corset.
Alors, et doucement, dis.
Il n'y a pas que les robes qui sont courtes. Elles ont les cheveux coupés aussi.
Les cheveux coupés Oh, on doit se figurer qu'on couche avec un garçon.
Décidément, quand on n'est pas là pour les surveiller, les femmes font des bêtises. Ben,
moi, je suis sûr que la mienne s'est pas fait couper les cheveux.
Tout ça, c'est des trucs bons pour les poules de luxe.
Toi, avec ta bouille, tu peux y aller, alors.
Oh, des souliers.
Et on avait oublié que c'était si petit.
Des bas. Oh, des bas. De la soie comme j'en ai jamais touché.
Hé, hey, copain, je suis prêt.
Oh, laisse-nous rêver un peu, toi. Si on te voit, tu vas nous retirer l'imagination. Ils sont beaux, dis donc, hein? Des bas noirs. Oh. T'as l'air d'une vraie fille.
C'est drôle, hein? Tu trouves pas que ça fait drôle?
Et là, moment de stupeur dans ce film magnifique, quand on voit un des prisonniers, un peu plus efféminé que les autres, qui enfile un costume de femme dans ses costumes de théâtre qui leur ont été fournis par la Croix-Rouge, et qui en fait a l'air vraiment d'une femme. Et ces hommes qui n'ont pas vu de créature féminine depuis des mois, voire des années pour certains, sont tout à fait subjugués. Voilà. Et c'est vraiment un moment assez touchant dans ce film-là que je vous recommande. Island, qui est à mon avis un des meilleurs films de tous les temps. Mais je me répète. Voilà, donc les changements sociaux existaient bien et bien, comme tu le laissais entendre, Laurence. Les femmes étaient dans les usines et de fait, eh bien, pour travailler, c'est quand même plus pratique d'avoir une jupe un peu plus courte. Donc, elles les ont raccourcies. Les cheveux, ça peut être très encombrant, voire très dangereux quand ça rentre dans un rouage.
Dans les machines, oui,
ouais. Donc, elles les ont coupées. Et forcément, ça a choqué un petit peu à l'époque, mais l'érotisme s'en est accommodé. Après tout, hein, on avait ce personnage de la Tweenie, je crois qu'on appelait ça, quoi, les femmes qui avaient des petites robes façon Charleston et qui se coupaient les cheveux à la garçonne. On pense notamment à Louise Brooks.
Ah, bah, tout à fait.
C'est qui a incarné.
Une belle image d'ailleurs.
Voilà. Et oui. C'était ce personnage un petit peu qu'on appelle pin-up par extension. Et bien justement, les pin-up existaient déjà. Ce n'est pas une apparition pour les soldats américains dans les années 1940. Ça existait déjà à l'époque, puisque je vous parlais d'art tout à l'heure avec le surréalisme. Et on connaissait les images d'Épinal. Hein. Je suis à peu près sûr que les soldats de la Grande Armée de Napoléon avaient dans leur poche des images un petit peu coquines ou des images de colporteurs, des images de presse ou des images de pénal, tout simplement. Eh bien, il y avait aussi ce genre d'images pour les soldats de la Grande Guerre. Alors souvent, c'était des trucs assez chastes. Hein. C'était soit des cartes postales illustrées avec des scènes sentimentales, avec une Alsacienne, par exemple, qui faisait un bisou au poilu, par exemple.
Colorisées, non, elles étaient un peu... Il y avait des petites colorisées par endroits.
Tout à fait. C'était des photos en noir et blanc retravaillées. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, tiens, je fais un aparté, le poilu. Hein, là, ce coup-ci, je ne me fous pas de la gueule de notre gentil régisseur, promis. Mais si on appelait le poilu, le soldat, le poilu, c'est parce qu'elle est déjà avant-guerre, c'était un signe de virilité. Les gens, les Apaches par exemple, s'appelaient « Ouais, toi t'es un vrai mec, t'es un poilu !» Enfin voilà, ils se parlaient comme ça, les gens. À l'époque, c'était usuel, voilà. Et donc, on en a gardé ce terme pour les soldats de la guerre de l'époque. Et donc, ils avaient dans leur poche, ces hommes-là, parfois des images, des photos, puisque la photographie existait bel et bien à l'époque, et on en faisait beaucoup. Et donc, des images parfois avec des gauloiseries, hein, de la verve gauloise, des situation un peu graveleuse, hein, celle d'humour qui vole pas très haut. Mais des fois, c'était vraiment mignon. Et je pense notamment à un artiste qui s'appelait Tito Sabido. Alors, c'est marrant parce que les Américains, pour les pin-up, avaient eu Alberto Vargas, qui était d'origine sud-américaine. Et bien, nous, en France, on a eu un artiste argentin, Tito Sabido, qui était venu dessiner et faire des photographies de personnages, de soldats et de femmes pour remonter un petit peu le moral des soldats sur le front. Et il y en a une, notamment, je vous publierai tout ça sur Internet, mais je vous en décris une, en fait. C'est on voit un homme et une femme qui se font un câlin, debout l'un près de l'autre, et on voit la femme légèrement de dos de trois quarts, et l'homme lui pose les mains sur les fesses. Et au-dessus, c'est marqué « Revendication de la victoire ». Et le gars dit « Je revendique les deux rives du Rhin ». Et la femme dit « Oh, bigre, comme tu y vas !» Voilà, c'est ce genre d'humour un petit peu coquin, qui était déjà un petit peu osé pour l'époque. Il y a des photos.
C'est bien de le dire, hein, parce qu'on est quand même... quand même 100 ans. Hein.
Bah ouais, il y a des photos un peu plus déshabillées ou des images un peu plus déshabillées, mais tout ça existait déjà à l'époque. Et donc, ça faisait fantasmer un petit peu et remonter aussi le moral des soldats sur le front, ainsi peut-être que des prisonniers dans les camps, comme on en avait un exemple à l'instant. Voilà, on va conclure à propos de ce sujet, on pourrait encore en dire beaucoup. C'est qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu pendant l'après-guerre et les soldats qui en étaient sortis, soit indemne, encore qu'on ne parle pas des conséquences psychologiques, soit que c'était des gueules cassées, n'avait qu'une envie, c'était une envie primale, c'était la pulsion de vie, c'était une envie de baiser, tout simplement. Excusez-moi de le dire aussi
crûment. Je pense que c'est assez compréhensible. Je crois, hein. Enfin, je n'ai pas fait la guerre, mais j'imagine bien que...
Et il y a un auteur, mais là encore, que j'ai découvert grâce au Festival Off d'Avignon, c'était Joé Bousquet, qui lui s'était pris une balle dans la moelle épinière, donc il était alité après toute sa vie. Il était aussi impuissant, et finalement, les plus beaux poèmes érotiques qu'il a écrits, ça a été dans ses années d'après-guerre, quand il a reçu, parce que c'est un mec qui avait la tchatche, etc., il a reçu des femmes superbes auprès de lui qu'il ne pouvait plus honorer. Hélas pour lui, mais auquel il a consacré des belles pages, et lui-même, qui était un homme assez gaillard, on va dire, avant-guerre, a reconverti toute cette énergie qui ne pouvait plus s'incarner dans l'acte sexuel, dans l'acte artistique, en fait. Et il y en a eu d'autres comme ça, peut-être moins connus, voilà. Et tout à l'heure, je vous disais que ça a été l'aube d'une révolution sexuelle, la Grande Guerre, pour tout ce qui est des bouleversements sociaux et culturels, mais qu'elle s'est surtout cantonnée à la libération sexuelle des hommes. Un exemple, les soldats américains, Pour les soldats français, c'était moins courant, mais pour les soldats américains, dans leur paquetage, quand ils ont été envoyés en 1917, on leur fournissait des préservatifs, puisqu'à l'époque, on avait déjà des préservatifs en latex. On ne les faisait plus avec des boyaux d'animaux comme 100 ans auparavant. Et donc, les hommes pouvaient aller éviter les maladies vénériennes ou éviter de mettre quelqu'un enceinte en utilisant ça, même si ce n'était pas forcément super agréable avec les moyens techniques de l'époque. Mais donc, il y avait une libération sexuelle, en fait, pour les hommes. Mais pour les femmes, elle était encore à conquérir. Et donc, d'une certaine manière, ça avait commencé. Il y a eu des prémices avant la guerre. Il y en a eu d'autant plus après avec les suffragettes qui ont demandé le droit de vote, le droit d'être des citoyennes, tout simplement. Et aussi après, les libertés politiques et la révolution sexuelle, elle, après, n'est venue qu'avec le contrôle de la contraception. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes notes. Je suis comme toi, Laurence, je m'y perds un peu.
Oui, mais enfin là, j'avoue que tu as accumulé. Super bien travaillé. Vraiment, là, moi, j'ai bu tes paroles. Hein. T'as vu, t'es passionnant.
On m'a déjà dit que j'avais super bien travaillé, mais c'était sous la couette. Mais j'apprécie quand même tes. J'apprécie quand même. Compliments.
Oui, bien sûr.
Voilà, chers amis, bon, ouais, je disais, c'est une révolution sexuelle, donc bel et bien, mais qui s'était plutôt incarnée pour les hommes et les femmes, même si la situation est progressée, puisque par exemple pour la mode, on parlait des robes qui se raccourcissaient et des cheveux qui se raccourcissaient tout à l'heure, eh bien, on avait des corsets au moment de la Belle Époque, dans les années 1890, et après la guerre, il y a eu Poiret qui a libéré la silhouette de la femme.
Absolument, monsieur Jean.
Voilà, qui donc a fait des robes de haute couture avec des femmes qui n'avaient plus forcément la contrainte du corset et dont la silhouette était plus libre en quelque sorte. Mais bon, les mœurs, malgré tout, ont mis du temps à évoluer. Hein, puis les femmes étaient encore parfois soumises à leurs mecs. Y en a même qui, après la guerre, ont fait preuve d'une grande abnégation en se mariant avec des gueules cassées pour repeupler la France. Hein. Donc là, ce n'était pas vraiment des mariages d'amour, mais ces femmes-là se sont occupées de ces pauvres types qui revenaient avec une jambe en moins, un bras en moins, au prix peut-être même de leur... pas forcément de leur bonheur à elles, mais en tout cas peut-être de leurs envies. Et donc, l'homme avait encore le rôle central dans le couple et dans la société. Ça commençait à évoluer, mais c'était difficile. Et il y en a une qui a tourné ça avec humour, c'était Fréhel, qui dans les années 1920-1930 a fait des chansons truculentes, elle aussi, comme celle qu'on va écouter tout de suite, c'est un mal.
Y a des tas de gonzesses qui font les bigueules, aussitôt qu'un homme veut les approcher. Il leur faut des compartiments d'âme seule, elles ont trop peur d'avaler la fumée. Mais moi qui ne suis pas aussi chic en guerre, j'ai mon vrai de vrai, un homme affranchi. On n'a pas besoin de faire des manières, on s'a dans la peau et ça nous suffit. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mal. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mal qu'il me faut. Il m'arrive parfois quelques aventures, j'ai connu des hommes dans tous les milieux. Je suis un peu curieuse de nature, mais c'est encore lui que j'aime le mieux. Il n'est pas rasé, tout son poil m'arrache, et quand il m'embrasse, il sent le tabac. Mais il me fait des tas de machines qui attachent, et je suis pâmée quand je suis dans ses bras. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mal. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre des sous, il peut me filer des coups, tant que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mal qu'il me faut. Quand mon homme emballe une poule du grand monde, s'il a du pétard avec le bourgeois, pour tirer son couteau de sa profonde, c'est lui, c'est le premier, lui qui a la loi. Il a l'estomac avec un tatouage, sous tatouage un point d'interrogation. Ça lui permettra, car il est volage, de faire lui aussi un peu d'aviation. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mort. J'aime son nez tout écrasé, sa cicatrice étalée sur son tympane. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups sans que je râle. Il a des gros biscottos, c'est bien lui le roi des barbeaux, mais c'est le mal qu'il me faut.
Voilà, Fréhel, son humour qui traverse les siècles et qui était un beau personnage de femme de l'entre-deux-guerres. J'ai hésité entre cette chanson-là et une autre qui s'appelle La Môme Catch-Catch, où là c'est l'inverse, on a une femme qui casse la gueule au mec. Mais bon, je vous la passerai une prochaine fois.
J'aime bien le portrait de l'homme qu'il lui faut, le portrait qu'elle brosse de l'homme qu'il lui faut, ça me fait beaucoup rire. Quoi. Non, avec elle avait du talent, Fréhel.
On est tous les gars, on n'est pas comme ça quand même, on pique pas les sous et on ne donne pas des coups. Mais tiens, on va donner quelques brèves avant de nous quitter, chers amis, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Et donc, pour aller vers un peu plus de fantaisie que les sujets qu'on a abordés, un sujet un petit peu grave en ce mois de novembre pluvieux, mais on les a abordés, je crois, avec humour et sous le prisme de l'érotisme, puisqu'on est dans Erosmose. Eh bien, on va aborder quelques brèves avant de nous quitter, chers amis, par quelques sujets que j'ai vus sur Internet. Alors, tout d'abord, parmi sur Twitter, j'ai vu une image, en fait, quelqu'un qui a fait une photo d'une affiche d'une boîte en Seine-et-Marne qui s'appelle le Mirabilis Club et qui organisait le samedi 11 octobre un concours de léchage de fesses féminines avec chantilly, marqué en rouge sur l'affiche. Hein. Et donc, on voit une silhouette en ombre chinoise assez suggestive, hein, avec une croupe féminine. Et donc, il y a Miss Bonbon sur Twitter qui a dit Mirabilis Club, Misérabilis Club, ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression, on se demande s'ils ont fait après un concours de voitures tunées sur le parking, hein, parce que vu le truc. Sinon, il y a un autre truc, c'est une fille en fait qui était au travail avec un de ses collègues et qui lui demandait, là c'était pas du tout pour du sexe, hein, par contre c'était pour de la mécanique. Elle lui disait, dis donc, tu as lubrifié? Et on lui répond, non, je connais pas cet auteur.
Pardon.
Ouais. Donc voilà, les conditions de travail en France sont parfois difficiles, hein, faut croire. Sinon, il y a Alice sur Twitter toujours qui en a parfois marre, hein, des déclarations des garçons qui sont un peu, enfin des garçons ou des filles un peu lourds. Elle dit, même mes boobs en période d'ovulation sont plus légers que vos statuts Twitter depuis quelques temps, c'est dire. Hein. Voilà. Donc j'aime bien cette comparaison.
Oui, moi aussi.
Et allez, on va conclure avec l'Église catholique qui nous a permis de beaucoup rire au mois d'octobre, puisque du 14 au 21 octobre, dans tous les diocèses de France, était organisée la Semaine missionnaire mondiale. Et sur l'affiche, l'encart en fait, qu'on peut voir sur les murs ou sur Internet, sur les sites en question, eh bien, on peut voir une femme qui est en prière dans une église. On voit un crucifix en arrière-plan et la femme a un petit fichu sur la tête. Elle est main jointe et c'est marqué près d'elle « J'ai soif de toi, virgule, viens ». Alors donc, l'Église catholique organise la semaine missionnaire mondiale avec une femme qui dit « J'ai soif de toi, viens ». Non, mais c'est à se demander s'ils le font exprès, quoi. Des fois, c'est hallucinant. Donc, merci à Wallace d'avoir mis ça à notre
compte. Géniaux.
À notre connaissance. Voilà, chers amis, allez, on va se limiter à ça pour aujourd'hui. On vous en dira plus le mois prochain, en décembre.
Alors, juste, attends, si vous avez invoqué les incubes et les succubes, surtout, quand même, et puis vous restez dans l'Église catholique, je me suis renseignée. Donc, vous pouvez invoquer tout de suite, enfin, vous pouvez prier plutôt qu'invoquer, parce que vous avez invoqué les incubes et les succubes. Donc, l'Église catholique vous recommande de prier l'archange Raphaël, Sainte Catherine, Sainte Marthe et Sainte Cécile.
Sainte Catherine, celle qui rit quand on l'a. Pardon.
Voilà, c'est la même.
Point, point, point. Allez, voilà, chers amis. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute d'Erosmose aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en décembre pour une autre émission mensuelle consacrée à l'érotisme et à la sexualité.
Du Père Noël.
Voilà, et il sera un petit peu question du gros barbu, hein, puisqu'on parlait des poilus, on va parler du barbu le mois prochain.
On va parler des barbus, gros ou pas, barbus.
Ce sera une ambiance YMCA. Allez, on va se quitter puisqu'on parlait de la Grande Guerre et que tu nous citais tout à l'heure, lisais une lettre de Guillaume Apollinaire, Laurence. Eh bien, on va se quitter justement avec les vers d'Apollinaire, justement, mis en musique par Jean Ferrat, dans un poème que j'aime bien parce qu'il parle notamment de l'imaginaire sanglant de la guerre, Thanatos, et l'imaginaire rose de l'amour, Eros. Donc Eros, Thanatos, hein, c'est pas pour rien que la psychanalyse est apparu
indissociable les deux.
Voilà. Après la Première Guerre mondiale, et donc ben il rêve que son sang, si un obus lui tombe sur la gueule un jour, son sang éclaboussera les tétons de loup. Ce sera le bout de son petit sein rose. Voilà. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, c'est la chanson avec laquelle on va se quitter, chers amis. Bonne fin de journée. Restez sur Osmose Radio. Tout
restez
à l'heure.
Sur Osmose,
il y a Jérémy qui accueille ses invités dans Touche pas mon nard. Nous on se quitte avec Jean Ferrat. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Bisous.
Bisous.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, oh loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieilliras point toutes ces belles choses. Rajeunirai toujours pour leur destin bien lent. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatant ardeur. Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse étant la plus jolie. Oh mon unique amour et ma grande folie.